Chapitre 10. Bientôt, en Quercy, on pâtit moins de la misère. Décembre s'écoula, favorable, avec ses après-midi de printemps. On labourait. Philomène reprit ses étoupes. Calice trouva du travail sur les terres de M. Andour. L'usurier, qui souvent chatouillait les joues de Fine, lui confia ses ouailles. Les économies de Toine, embauchées maintenant près de Molière, servaient à rembourser les emprunts contractés sur la tête des bœufs, et les maraudes de Rennes rapportaient autant que le salaire de Fine. Tout le long du jour et le soir sur le banc de pierre qui regarde le jardin, Fine se fouettait le courage pour aller, de l'autre côté du ruisseau, entretenir la veuve Radel des promesses de son fils. Son courage ne voulait pas. L'orgueil de Marthe dans sa fortune l'effrayait. Quand elle revenait de conduire chez M. Andour les oies, elle se disait fatiguée. Épiant à travers l'ombre, sous les ramures, le moulin, semblable à une colossale vache inclinée sur le ruisseau, elle soupirait de dépit et de honte. Des idées bizarres de vol, de péché, lui rôdaient par la cervelle. Elle avait décidé son mariage avec Adrien, il fallait qu'à tout prix elle le réalisât. Sinon, elle se vengerait en souillant toutes les spilles d'une faute que l'eau bavarde n'emporterait jamais. Une fois, elle chercha le moyen de s'évader, de courir à Castelnau surprendre son galant. S'il bredouillait encore des excuses, elle lui cracherait à la figure sa lâcheté et s'en irait avec d'autres pharaons dans un pays où nul ne la connaissait, entendre hurler le loup. Une autre fois, elle voulut se placer dans une métairie voisine de Moratier afin d'empêcher Adrien, par sa seule présence, de se laisser mettre le pied dessus par une villageoise savante. Un soir, après avoir longtemps attendu Père Caliste, qui était allé à Caussade acheter un verrat, Fine se troubla d'apprendre qu'il avait rencontré, au foirail de la petite ville, le patron d'Adrien. « Eh bé, qu'est-ce qu'il fait ? » demanda-t-elle. « Il gagne de l'argent, et vous autres, vous perdez votre jeunesse. »« Quoi ? Cet emplâtre gagne de l'argent ? » ?»« D'abord, de qui parles-tu ? » ?»« D'Adrien, Seigue. » »« Ah, ton Adrien, il ne se porte pas mal. » »« Rien que ça ? » Tu n'aurais pas voulu, par hasard, que je te l'amène avec mon verra, la corde au cou ? Oh, mon père, tu ne sais pas comprendre ! Je sais qu'avec cet innocent, tu m'agaces, et quand il reviendra, sa mère lui aura tout mangé. Reine, s'esclaffant de rire, tapa du poing sur la table où fumait la soupe de choux. La mère regardait Fine fixement, avec un peu de pitié. Celle-ci, pâle, se mordait les lèvres. Ce coup d'injure à ses tentations d'amour lui blessa le cœur, comme s'il fût venu d'Adrien, lequel, pourtant, ne l'avait jamais effleuré d'une ironie. Elle s'était trouvée sotte, à cause de lui, devant ses parents. Elle entendait encore le rire laid de sa sœur, ce rire de démon qui la raillait dans ses idées de fortune trop hautes. Elle appréhenda davantage de rencontrer la veuve Radel dans le Val par les champs. Un après-midi de ce décembre, le ciel se chargea de nuées, projeta son ombre dans l'entonnoir du Val. Les branches se tordirent en pleurant sous les coups de l'orage. La pluie crépita, drue, grosse. Les fossés charrièrent bientôt de la boue et des ronces. Les oiseaux s'évadèrent à l'aventure, cherchant des abris, s'appelant au creux des pierres. Ils venaient, par bandes, en sautillant, jusque dans l'allée du milieu, jusque sous la treille, chez les Maurac. Le ruisseau de l'Espigne avait débordé. Le courant claquait contre les arbres avec des bruits de grosses cordes qui tantôt frappent, tantôt tirent. Le moulin semblait mort. La veuve Radel, derrière sa porte, disait des prières. Seule, là-haut, sur la passerelle du pigeonnier, une pigeonne grise regardait l'orage en balançant sa tête au collier grenat. Les autres pigeons, pelotonnés dans les corbeilles d'osier, roucoulaient d'amour, pour ne pas entendre la pluie et la bourrasque. Le tonnerre grondait. Les Maurac, dans leur masure, demeuraient immobiles et muets. Ils savaient qu'au lendemain d'un tel orage, la gêne, la misère, allaient revenir au Quercy avec leur cortège de souffrances et d'humiliations. Calice, épaulé au mur de la porte, regardait stupidement, dans son jardin, dans le Val brouillé, la chute des eaux du ciel, monotone, furieuse, sans fin. Philomène, qui filait son étoupe en un coin mal éclairé, poussait des soupirs de désolation. On finit, cependant, par s'accoutumer à la musique de la pluie. Reine se mit à ronfler, la tête entre les bras, sur la table. Fine, pour se distraire, frotta longuement à son tablier sa gaule qu'elle voulait polir, et dans son attitude d'enfant amusé, il y avait le contentement de jouir un jour de l'ombre et de l'odeur de sa maison, d'être enfermé par la pluie avec ses parents, qui craignaient pour eux et pour elle une saison nouvelle de privation. Calice, ouvrant la porte vitrée, hasarda au dehors la tête. Le vent, aussi brutal qu'une mule en folie, entra, le frappa au visage. Calice s'obstina pour juger de la durée de la tempête. La ténèbre s'étendait partout. À peine une lueur à l'horizon, très loin, trouait les nues, aussi faibles que le jour d'une lucarne. Calice, étonné, grelotta de désespérance. Il leva les yeux pour implorer le bon Dieu, là-haut, plus haut que le pays où roulait le tonnerre. Mais devant lui, au-delà de son jardin, il aperçut M. Andour qui pataugeait, le dos chargé d'un sac et d'un fusil. Le chien de chasse tirait la langue, trottinait avec précaution du bout des pattes. « Eh, par ici, Monsieur Andour !»« Ah, ah, voilà, mon brave !»« Que rôdez-vous donc par ce temps du diable ?»« Oh, mon ami, ce n'est pas pour la fredaine, non. Je chassais, je n'aurais pas cru la pluie si longue. Venez vous chauffer !» Monsieur Andour accourut, suivi de son chien. Sur le seuil de la masure, il tapa des pieds, secoua ses beaux habits de chasse, puis, à son aise, familier en tout lieu par la grâce de sa richesse, il s'installa devant la cheminée. Reine, avec beaucoup de politesse, posa son fusil dans un coin, son sac sur la table. Calice, qui s'était esquivé, revint avec un tas de bûches qu'on alluma tout de suite. Monsieur Andour, la trogne cramoisie, les paupières jaunes, se régalait des terrestres du feu. Il se léchait les lèvres, passait ses mains dodues sur ses joues rasées. Auprès de lui, Reine fouillait effrontément le sac de chasse. Il l'observait des pieds à la tête, avec malice, en clignant des yeux. Calice observait patiemment le riche, qui avait des fantaisies si brusques pour le bien de son corps. Philomène, complaisante, prenait souci du chien. « T'es, Calice !» s'écria l'usurier. « Telle que tu la vois, ta reine me plaît !» Il désignait Reine, qui, sans émotion, se mit à rire. Calice et Philomène, anxieux, se regardèrent furtivement. Un espoir lui jaillit au cœur. Est-ce que M. Andour tournerait aujourd'hui sa fantaisie de bourgeois généreux du côté de la maraudeuse ? Un silence tomba.